Très ravie de vous retrouver, fidèles auditeurs et auditrices du studio Kalangou. Il est 18h, l'heure du journal en français, au micro Diallo Kenda. Bienvenue à tous. Et voici ce qui fera l'essentiel de l'actualité. Radio Niger Actuelle, Voix du Sahel, souffle aujourd'hui 18 octobre ses 60 bougies. Un moment heureux de retrouvailles entre les anciens et les locataires actuels de cet outil de souveraineté. À suivre le témoignage d'Akoli Dawel, présent 60 ans en arrière, mais présent ce matin aussi pour l'anniversaire. Démarrage ce matin à Niamey de la campagne Zéro Palu, je m'engage. Vous entendrez le ministre nigérien de la Santé, Dr Ilyasu Maynassara, sur l'objectif de la campagne. Nous sommes en octobre et c'est le mois retenu pour une campagne de sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein et récolter des fonds pour la recherche. Dans la partie magazine, nous irons à la rencontre d'une malade atteinte du cancer du sein suivie par une cancérologue à l'hôpital national de Niamey. Messieurs, dames, bonsoir. Radio Niger Actuelle, Voix du Sahel, fête aujourd'hui son 60e anniversaire marqué par la remise de témoignages de satisfaction aux agents, auditeurs et partenaires qui se sont distingués. Occasion pour l'ancien directeur de la Radio Niger, un de ses tout premiers animateurs, de rappeler l'importance de l'utilisation des langues nationales dans le développement et la popularité des émissions de la Radio Niger, propos recueillis par Moussa Hassan.
On était recrutés comme ça, sans formation, pour animer dans les langues. Dans un premier temps, c'était trois langues, le Hausa, le Germain et le Fulfulde. En 1960, ça a été élevé à cinq langues. Pour le Hausa, Amada Bachar, le Germain, Himada Madama, Fulfulde, Zawda Diallo, le Kanouri, un ancien chef du cabinet du ministre sous le régime de Djori, et moi-même pour le Tamashek. Quand la radio du Niger a été créée, c'était la déconcentration de la radio de l'AOF. C'était des petits émetteurs, généralement récupérés à l'armée. On a créé la radio à Zinder. Peu de temps après, il a été nécessaire de créer une radio à Agadez. J'ai été désigné pour la créer en juillet 61. Les radioclubs ont été très importants dans le développement de la communication. La communication à langue nationale a été très importante. Elle continue d'en avoir le mérite. Je les félicite très sincèrement en tant qu'ancien et en tant que fondateur de l'IFTIC Ancien CFTI.
La région africaine, selon l'Organisation mondiale de la santé, concentre 90% de l'ensemble des cas de paludisme et décès associés. 15 pays, tous situés en Afrique subsaharienne, représentent 80% de la charge palustre au niveau mondial et seuls l'Éthiopie, la Gambie, Madagascar, le Sénégal, le Zimbabwe ont connu une baisse des taux d'incidence de la maladie en 2016 sur le continent. À ce sujet, le ministre nigérien de la Santé, Dr Ilyasu Maynassara, nous édifie sur l'objectif de la campagne Zéro Palu, je m'engage, démarrée ce matin à Niamey.
Nous avons projeté de bouter le paludisme au Niger et en Afrique d'ici quelques années. 53 pays africains ont porté leur signature lors du sommet de l'Union africaine qui s'est tenu en Mauritanie en octobre, où les chefs d'État africains et les partenaires ont pris l'engagement de lutter contre le paludisme au vu du ravage que cause cette maladie dans nos pays. Par cette maladie, à chaque 2 minutes, on enregistre le décès d'un enfant en Afrique. Chaque minute, il est enregistré des millions de personnes atteintes de cette maladie. C'est pour cette raison que les chefs d'État africains ont décidé de prendre cet engagement pour bouter hors d'Afrique cette problématique d'ici 2030.
Propos recueillis par Alamine Ouachar. Violent combat mardi entre les soldats maliens et des terroristes dans la région de Ndaki, à environ 200 km au sud-ouest de Gao, dans le nord du Mali, déclenchant une intervention aérienne de la force française Barkhane, a indiqué jeudi à l'AFP le porte-parole de l'état-major français. Le violent accrochage s'est conclu mercredi. La ténacité des terroristes qui n'ont pas abandonné tout de suite laisse à penser pensé que soit il s'agissait d'un site important pour eux, soit que quelqu'un d'important était présent chez eux, a commenté le colonel Steiger. 3 morts, 3 blessés, dont un admis au centre hospitalier de Diffa. C'est le bilan d'une rixe qui a opposé mardi les membres d'une même communauté à Ngourti, région de Diffa. Le fonçage d'un puits dans un espace disputé serait le mobile déclencheur de la bagarre. Abdoulaye Choko, parent d'une victime, témoigne au micro de Lawan Boukar.
La bagarre était prévisible. C'est un vieux démon qui dormait, mais les gens ils l'ont voulu réveiller, on ne sait pas à quel dessein. C'est un espace au niveau d'une cuvette que les gens de Kaoula, et c'est leur territoire, et les autres ils sont venus s'installer. Lorsqu'ils sont installés, les gens ils ont voulu faire le puits. Maintenant, si tu viens, tu t'installes sur un territoire, c'est la personne qui va t'indiquer là où tu vas faire le puits. Et ils ont dit non, on va faire ça ici. Mais compte tenu des problèmes qui peuvent arriver, les autorités à l'époque, les autorités administratives et coutumières ont refusé carrément qu'on crée ce puits. Malheureusement, certains individus, on ne sait pas vraiment pour quelles raisons, ils ont parti réveiller ces démons.
Fin hier à Niamey de la rencontre organisée par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF sur la révision de la politique nationale de l'éducation et de la formation de la jeune fille. Après 7 jours de travaux qui ont permis l'élaboration d'un document qui tient compte des besoins actualisés des filles, Mariama Chipkao, enseignante de carrière qui a participé à cette rencontre, nous livre la quintessence du rendez-vous.
Ce qui est retenu dans le cadre de cette politique-là, la mise en œuvre des activités en lien avec l'amélioration du cadre juridique de protection de la fille en cours de scolarité, autrement dit, la vulgarisation du décret portant sur la protection, le soutien et l'accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité. C'est un travail que nous avons déjà commencé, mais aussi il a été fortement proposé de continuer dans ce sens en allant vers la prise des textes d'application de ce décret-là. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons un draft de travail qui a pris en compte le contexte, les différentes statistiques, les besoins actualisés. Nous avons fait notre travail de technicien. Nous le soumettons aux observations et à l'appréciation de notre hiérarchie.
Propos recueillis par Ailatou Soumana. Les élèves des collèges et lycées de Maradi observent une grève de 48 heures hier et aujourd'hui pour exiger du gouvernement le paiement des arriérés d'allocations et des aides sociales au titre de l'année dernière. Aussi, ils dénoncent le manque de fourniture dans certains établissements, selon notre correspondant local. Retour sur l'affaire des boîtes de tomates avariées que les habitants de Courtéré récupérait dans une décharge à la sortie de Niamey. La commune Niamey 5 qui a autorité sur cette zone avait mis à contribution la brigade sanitaire pour que ces tomates ne remontent pas le circuit de la vente. Après vérification, selon le secrétaire général de cette commune, la tomate n'était pas sur le marché, mais consommée par les habitants qui se sont servis à la décharge. Djibo Boubacar est au micro de Rukayatou Abdourahmane.
Concernant les tomates avariées qui étaient enterrées au niveau de Courtéré, nous avons effectivement mis en place un comité chargé de voir dans les différents marchés du 5e arrondissement et dans les boutiques annexes si ces produits-là n'ont pas été en train d'être vendus. Le constat est que vraiment aucun commerçant ne s'est approprié de ces produits-là pour les mettre sur le marché. Donc vraiment ceux qui ont pris ces produits-là au niveau de la décharge, c'était vraiment pour leur consommation.
30 jeunes de Diffa, Abala et Niamey partagent des histoires de réconciliation et de résilience au festival Rue Danse Niger. C'est le thème de la 5e édition du festival Rue Danse, expliqué au public ce matin au CCFN Jean Rouche de Niamey grâce au concours de l'ambassade des États-Unis au Niger. Pour l'organisateur du festival, Moussa Mansani, la danse participative est aussi un canal de message universel afin d'inciter à la réconciliation. Il est au micro de Habibou Garba.
On voulait utiliser utiliser la danse comme outil de sensibilisation et de médiation culturelle et du développement justement social et politique, tout en brisant la frontière des langues, quelque chose qui peut être compris par tous. Si tu es sourd, si tu ne comprends pas la langue, comment on peut aller te toucher et te faire comprendre que l'importance de la réconciliation à travers l'outil de la danse. Et ce concept a été justement développé et en tout cas, on a eu beaucoup de perceptions du public. C'est aussi un peu la vision de la danse participative. C'est aussi l'art de faire passer des émotions et les actions de l'âme du spectateur par l'expression vraie de nos gestes et de notre corps.
Et parlons football à présent. L'équipe nationale de football du Niger, le MENA, a été battue mardi lors du match retour à domicile. La Tunisie a disposé du MENA par 2-1. Mathématiquement, le 11 nigérien est éliminé de la course à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2019 parce que dernier de sa poule. Adamou Munkaila, secrétaire général du comité provisoire de la Ligue de football de Niamey, explique cette élimination par l'alignement de certains joueurs visiblement pas aptes.
La Tunisie a 12 points, l'Égypte qui a déjà 9 points. Donc nous, le maximum qu'on puisse avoir, c'est 7 points. Pour vous dire qu'on ne peut plus rattraper ces deux équipes. C'est-à-dire même pour la troisième place, il faut forcément battre l'Égypte à domicile et faire un bon match en Swaziland. Beaucoup de choses expliquent cet état de fait. Il faut se référer à la forme physique de certains de nos joueurs. Certains joueurs ne sont prêts en compétition. Et au cours du match, surtout, il y a eu vraiment des changements qui ne nous ont pas servi. On l'a remplacé par Sakho un moment qui a brillé pendant 5 minutes. Après, pof. C'est la même chose. La grosse erreur sur le milieu de terrain qui n'a pas eu. L'équipe n'était pas du tout équilibrée. Les Tunisiens ont joué au milieu, ils nous ont fatigués. Et vous avez vu la fin du match, à quoi ça ressemblait. Il faut vraiment trouver les mécanismes pour les deux matchs qui restent et faire jouer que des joueurs qui jouent.
Propos recueillis par Soumana Amadou, la partie magazine de ce journal. Octobre rose, c'est un mois de l'année retenu pour une campagne de sensibilisation pour le dépistage du cancer du sein et récolter des fonds pour la recherche. Le symbole de cet événement est le ruban rose. À l'hôpital national de Niamey, nous avons rencontré une malade atteinte du cancer du sein suivie par Dr Ismouya Dile, cancérologue au même hôpital. Voici notre reportage. Chirurgie B, lit 5, c'est là où nous avons trouvé Madame Idrissa Bintou qui vient de se faire opérer du sein. Cette femme de 44 ans et mère de 4 enfants n'a plus que son sein droit. Chapelet en main, assise sur son lit, Bintou réajuste son grand voile et nous raconte comment elle a découvert son cancer. Tout a commencé, dit-elle, durant sa grossesse. Après plusieurs tentatives pour se faire consulter, les agents de santé lui ont signalé qu'elle ne pouvait faire la mammographie qu'après son accouchement.
Juste 6 jours après mon accouchement, j'étais venue à la clinique Magori pour une mammographie. Et le docteur m'a dit qu'il faut d'abord que je sèvre mon bébé. 4 mois plus tard, j'ai constaté que ça devient de plus en plus compliqué. J'ai alors dit à mon mari que je vais sèvrer mon enfant. À ce moment-là, il avait 5 mois. Je suis revenue et le docteur m'a donné un papier pour la mammographie à Niamey. Et on m'a dit d'aller voir Dr Dile le mercredi.
Et selon Dr Dile Ismouha, cancérologue, le sein de Madame Idrissa Bintou aurait pu ne pas être coupé. Elle souligne qu'il y a eu problème de formation de l'agent de santé qui a été un facteur d'aggravation du cas de la malade.
L'agent de santé qu'elle a vu n'était pas au courant qu'on peut faire le cancer du sein durant une grossesse et qu'il est d'autant plus grave quand ce cancer du sein survient durant la grossesse. Donc la maladie a continué à évoluer comme ça jusqu'à son accouchement. La petite boule qui faisait peut-être 2 cm est arrivée à une boule de plus de 10 cm. La maladie a commencé à entrer un peu dans le sang. Donc il faut faire de la chimiothérapie.
L'étape suivante est la radiothérapie, explique Dr Dile, qui est très chère.
Ici, on n'a pas la radiothérapie. La prise en charge de la chimio et de la radiothérapie, qu'on fait une partie au Niger, une partie à l'étranger, peut coûter 5 à 10 millions par malade.
Le professeur Nuhu Hassan, responsable du service anatomie et cytologie pathologique de la faculté des sciences de la santé de l'université Abdoumoumouni, avance qu'en 2017, il a été déclaré 505 cas de cancer génitaux chez la femme, dont 268 cas de cancer du sein et 126 du col de l'utérus. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le forum de Studio Kalangu présenté ce soir par Nafissa Adamou. Elle vous parle du rôle de l'islam pour freiner le mariage des enfants.
Suivez les programmes du Studio Kalangu partout dans le monde grâce à sa page Facebook. la page Facebook du studio Kalangu.
J'aime et je partage.